Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Nous sommes maintenant dans le numérique et politique, notre débat du dimanche soir, en présence de Christian Paul, ancien ministre. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Ancien député, ainsi que Séverin Naudet, conseiller innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder, et ancien conseiller numérique du Premier ministre également. Débat autour de Donald Trump encore. Au fond, qu'est-ce que Donald Trump a fait au numérique? On pourrait d'ailleurs aussi inverser la question. Qu'est-ce que le numérique a fait à Donald Trump? Plusieurs questions. Est-ce que Donald Trump comprend l'économie numérique? Qu'a-t-il fait finalement s'agissant de la Federal Communication Commission où il a nommé Ajit Pai? Qu'en est-il aussi de ses rapports en fait avec la Silicon Valley? Est-ce que Trump est l'ennemi du numérique? Est-ce que Facebook est l'ennemi de Trump? Comment est-ce qu'on voit ce débat? On peut peut-être commencer par vous, Christian Paul.
Ce qui est flagrant, si on observe Donald Trump depuis quelques années, pas seulement d'ailleurs depuis qu'il est président de la République, c'est quand même une hostilité viscérale à tout ce qui représente pour beaucoup d'entre nous la culture démocratique et la culture de l'Internet. L'Internet est né, s'est développé sur la planète avec une très forte promesse démocratique, la promesse d'une société ouverte. Et Donald Trump est l'ennemi déclaré et sans complexe de cette culture démocratique. Donc ça, c'est, me semble-t-il, le fond du décor. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre que Donald Trump n'est pas l'ami de la liberté d'expression, n'est pas l'ami de la presse, bien au contraire. Il traque la moindre erreur d'un journaliste pour en tirer un avantage politique. Et plus globalement, je pense qu'il est en train de porter des coups très durs aux libertés numériques qui sont nées dans cette nouvelle civilisation, en Europe bien sûr, mais aussi d'abord aux États-Unis. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, le point principal. Donald Trump est l'ennemi de la culture démocratique qui est, au fond, ce qu'on a pu construire de positif, d'optimiste, de progressiste avec Internet. Alors, il y a ensuite, évidemment, toute la dimension économique. À travers la question de la neutralité, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a vraiment deux enjeux. Il y a un enjeu de dérégulation. Ça, c'est pour donner davantage de capacité d'agir aux fournisseurs d'accès, aux opérateurs de télécom pour s'enrichir, peut-être pour investir, mais en tout cas pour s'enrichir. Et puis, il y a un enjeu aussi de liberté d'expression. Parce que partout où la liberté d'expression est forte, il y a la tentation, à travers la mise en cause de la neutralité de l'Internet, de réduire les libertés d'expression. Donc on voit bien le chemin, le sillon que trace Donald Trump. Puis ensuite, évidemment, il y a aussi l'usage qu'il fait lui-même des réseaux sociaux et Twitter. On s'est quand même demandé ces derniers mois s'il n'y aurait pas une déclaration de guerre à la Corée sur Twitter. Hein. Alors, c'est plus la dépêche d'Ems.
On s'est aussi demandé.
C'est en 140 caractères, on déclare la guerre. Voilà.
Maintenant, c'est 280.
Oui, c'est 280.
On s'est aussi demandé, au fond, s'il n'allait pas se calmer. Et à un moment donné, au fond, il avait été candidat, il y a des campagnes électorales, c'est toujours assez radical, on s'oppose, etc. On s'est dit au début, il va devenir président, peu à peu, il va être rattrapé par le système, les conseillers, la diplomatie, le système militaire, etc. Et sur Twitter, ça va être un community manager qui va traiter ça de manière calme. C'est pas ce qui s'est passé.
Alors, ce qui est clair, c'est qu'il a brisé les codes de la communication politique aux États-Unis. Alors, briser les codes, c'est pas en soi quelque chose de détestable, mais ça peut le devenir si c'est au service de mauvaises causes.
C'est vrai, Naudet, est-ce qu'il comprend l'économie numérique? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ses premières, pendant une année, de ses premières décisions?
Je crois que la première chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que quand on se penche une petite minute sur Donald Trump, quel que soit le sujet finalement, je suis pas sûr qu'il y ait une volonté politique chez ce monsieur, mais plutôt systématiquement, c'est la culture du Far West. En fait, la seule chose qui compte, ce sont ses intérêts personnels et ses lubies du moment. Donc c'est très difficile de le décrypter.
Le Far West, c'était pas les lubies du moment, il y avait quand même la suite dans les idées. Il y avait ce qu'on appelait la frontière et le cap était défini.
Ouais, il y avait une volonté impériale.
C'était aussi le règlement de la rue. Et Donald Trump, c'est un peu ça. On voit que dans l'affaire de la neutralité du net, il nomme quelqu'un qui vient de chez Verizon, qui a des intérêts de business personnel très clairs. Il n'y a pas de volonté politique, à mon avis, derrière, si ce n'est de faire plaisir à ses copains, en réalité.
C'est-à-dire aux câbles opérateurs et aux...
Exactement. Enfin, même d'ailleurs, de faire plaisir à celui qu'il a nommé à la FCC, qui lui-même fait plaisir à des boîtes pour lesquelles il a travaillé, qui ensuite en récoltera les fruits sur un plan de financier. Je veux dire, je crois que c'est très clair. Je suis pas sûr qu'il y ait
Mais est-ce qu'il comprend l'économie numérique ?
Ensuite, sur cette question-là, je pense qu'il n'y comprend rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que...
On se souvient...
En fait, on a l'impression qu'on entend cette phrase. On peut parler de ça sur la domestique, sur la diplomatie, sur la politique extérieure. Ça marche souvent.
C'est fascinant. Il l'assume complètement, d'ailleurs. Pendant la campagne, il répétait « I like the old days ». Donc, j'aime l'ancien monde. Il le dit tout le temps. Et pour lui, Internet, les nouvelles technologies, c'est deux mots, c'est « cyber » et « hacker ». Ce qu'il répète en permanence dans tous les sens, on ne sait pas très bien. Il imite même à un moment son fils pendant la campagne présidentielle qui se sert trop d'un ordinateur et il trouve ça presque aberrant. Il parle de son fils.
Et en fait, en même temps, à 4h du matin, il se réveille et il tweet.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Alors, juste pour finir, on se souvient qu'il avait demandé la fermeture partielle du web, comme si c'était un truc, comme ça, on pouvait fermer, il y avait un robinet, puis à un moment, on allait fermer un bout, puis continuer à utiliser l'autre.
L'eau chaude, l'eau froide.
Il disait que l'État islamique se servait mieux d'Internet que les Américains. Alors, on se demandait si on leur avait donné le code du Wi-Fi des États-Unis et que donc ils allaient s'en servir, alors que même le patron du FBI et de l'ensemble des agences de renseignement aux États-Unis ont dit qu'en fait l'État islamique ne se servait pas si bien que ça d'Internet.
Enfin, il a expliqué comment il allait lutter contre l'État islamique et il a dit « Ah mais non, je ne vais pas vous dire, parce que sinon il le saurait, il m'écouterait et il risquerait de savoir à l'avance. »
Sur l'autre sujet évoqué par Christian Paul sur ce que vous disiez, par contre, il a réussi un truc incroyable, c'est qu'il a quand même près de 69 millions de followers sur Twitter. Pour mémoire, je crois que CNN, c'est 12 millions de téléspectateurs par an, hein, à peu près. Donc il a aujourd'hui, il est à la tête d'un des plus importants médias de la planète. Ça, c'est la désintermédiation totale des médias traditionnels. Et là, encore une fois, c'est son propre intérêt. C'est-à-dire que d'un côté, il comprend rien à Internet qu'il essaie de dézinguer dès qu'il peut, quand ça l'arrange. Mais là, en revanche, il joue sur la désaffection des Américains pour la presse traditionnelle, dont on sait aujourd'hui ils n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Ils sont 65% à consommer de l'information via les réseaux sociaux. Il s'est construit un média ultra puissant. Il s'adresse à sa base directement, qui n'écoute que lui en boucle sur un média. Et c'est assez amusant. D'ailleurs, vous irez chacun peut aller sur Twitter, regarde sur son compte, sur un de ses deux comptes. C'est un des rares comptes sur Twitter où on voit le niveau d'engagement tourner en temps réel. C'est-à-dire qu'on va les retweets.
Dès qu'il met un tweet,
on voit. Clic, à chaque fois que.
Et c'est 10 par 10 souvent.
Il joue sur tous les tableaux et c'est vraiment le populiste homme d'affaires par excellence qui n'est pas là pour faire de la politique mais juste pour ses propres intérêts propres.
Christian Paul.
Oui, moi, au risque de casser l'ambiance, moi je ne.
Et de défendre Donald Trump, donc
non, mais je n'ai plus d'humour à l'égard de Donald Trump. Donald Trump ne me fait plus rire. En tout cas, depuis qu'il est élu président, depuis qu'il est élu président des États-Unis d'Amérique.
Et
pourquoi c'est inquiétant? C'est parce que Donald Trump n'est pas seul. Ça n'est pas, l'évadé de je ne sais quelle structure psychiatrique qui aurait tout d'un coup atterri à la Maison Blanche. Non. Au sein du Parti républicain, il y a aussi au sein du Parti républicain, il y a aussi, depuis très longtemps, un lobby qui s'est développé contre la neutralité du net. C'est pas Donald Trump seul. Et non, il faut quand même se rappeler, si on revient quand même à quelques éléments de culture politique, parce que dans cette affaire, c'est quand même, c'est des cultures politiques qui s'affrontent très violemment dans la base sociale de Donald Trump, sa base électorale, qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il n'a pas été, encore une fois, élu par hasard. Il est aussi l'expression politique, l'outil politique d'une situation sociale économique aux États-Unis et dans sa base politique, il y a des millions de gens qui sont les défenseurs d'une société fermée, contre une société ouverte qui était la promesse des origines de l'Internet et qu'il faut encore défendre aujourd'hui.
Oui, oui, la seule chose que je disais, c'est que dans ce cas précis-là, par exemple, s'agissant de la neutralité du net, il s'en fiche, ça ne l'intéresse absolument pas. Il est juste effectivement l'instrument d'autres lobbies et par ailleurs, il fait plaisir à quelqu'un qui est un de ses amis et qui probablement en tirera un bénéfice
oui,
plus
tard. Il y a un raisonnement quand même derrière.
Je
ne
suis pas sûr que lui-même ait un dessein politique derrière.
Il peut y avoir les intérêts puissants des fournisseurs d'accès et des opérateurs télécoms. Il faudrait regarder d'ailleurs comment ceux-là se sont comportés au moment du financement des campagnes présidentielles. Et il y a toute une théorisation anti-neutralité du net, puisque qu'est-ce que défend la FCC en ce moment ? Et au fond, ça rend compte totalement la vision du monde de Donald Trump. Il défend l'idée que la neutralité peut conduire progressivement l'État américain à ruiner les fournisseurs d'accès, donc à l'État être le principal fournisseur d'accès, et donc à pouvoir s'opposer aussi aux intérêts de Donald Trump. Donc franchement, soyons attentifs.
Voilà. Zoé Sfez.
Est-ce qu'on peut juste poser cette question, puisqu'on en a parlé pendant en début d'émission, quid de la Silicon Valley ? Parce que objectivement, on le sait, on l'a dit, à la base, il y a quand même une grande volonté de libéralisme des deux côtés qui pourrait faire qu'aujourd'hui, on aurait pu imaginer que Donald Trump soit proche de grands entrepreneurs comme ceux de la Silicon Valley. Il se trouve que ce n'est absolument pas le cas. Que peut ou que fait la Silicon Valley dans ce rapport-là ? Est-ce qu'on sait si potentiellement il peut y avoir évidemment des discussions ? Est-ce que d'ailleurs les géants de l'Internet, dont on dit aujourd'hui qu'ils ont quand même une puissance équivalente à celle des États, peuvent jouer un rôle aussi dans cette ou pas résistance entre États, en tout cas un rôle politique face à Donald Trump ?
Christian Paul. Bon,
je pense qu'on peut considérer qu'une part d'entre eux attend la prochaine élection présidentielle. Bon, c'est pas eux qui vont provoquer la procédure d'impeachment si elle doit advenir. Ils font parfois le dos rond. On a vu comment Zuckerberg, parce que Facebook a été mis en cause, y compris dans l'élection elle-même. Alors là, plutôt d'ailleurs au service de Trump. C'est d'ailleurs le paradoxe de la relation avec Facebook et Mark Zuckerberg, c'est que à la fois on sent bien que ce sont des cultures politiques extrêmement différentes. Sur la dimension économique, je ne crois pas qu'elle soit centrale là, dans ce débat, mais c'est des cultures politiques et démocratiques complètement différentes. Facebook a été accusé, on en a débattu d'ailleurs avec Severin Audet il y a quelques semaines, d'avoir facilité l'élection de Donald Trump en accueillant volontiers des publicités financées par des agences d'origine russe. Et dans le même temps, Donald Trump considère que Facebook est son ennemi de toujours. Voilà. Alors, moi, je pense que il n'y a pas une croisade, évidemment, de la Silicon Valley de façon organisée contre Donald Trump. Mais je pense qu'il y a vraiment une envie très claire, c'est qu'il dégage.
C'est vrai, Nodé.
Non, mais il y a un choc de culture évidente et on revient toujours à un sujet d'ailleurs générationnel, ce qu'on caricature par nouveau monde, ancien monde. Il ne comprend rien à l'économie de la Silicon Valley, donc en plus il prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la Silicon Valley.
Sur le visa, par exemple,
sur les visas où les entreprises de la Silicon Valley sont construites avec beaucoup, beaucoup de migrants et beaucoup de gens qui viennent d'autres pays du monde et notamment beaucoup de Français d'ailleurs.
Des développeurs,
beaucoup d'ingénieurs
des
français. Et évidemment, ça va pas du tout dans le sens du développement de ces entreprises-là. Bon, par ailleurs, il est à géométrie variable, hein, parce que il a accusé de tous les maux Facebook, notamment quand ils ont refusé de communiquer un certain nombre de données au FBI, quand le FBI menait une enquête contre Hillary Clinton. Donc, il est toujours sur les deux sujets. Mais l'essentiel, je pense, c'est que, comme il ne comprend pas cette économie, que c'est une économie qui lui est absolument étrangère, qu'il ne voit pas d'ailleurs ce que ça apporte aux États-Unis, c'est il est sur une ère industrielle qui est dépassée et d'ailleurs sur une économie qui était la sienne qui est très particulière. Ils sont dans un affrontement régulier parce que cette économie n'est pas la sienne et qu'encore une fois les industriels de la Silicon Valley sont des gens qui sont très pragmatiques, qui sont aujourd'hui dans du soft power en plus de conquérir le monde d'un point de vue économique de manière très claire, et beaucoup des comportements, des agissements et des décisions politiques prises par Donald Trump vont à l'encontre des intérêts de cette économie.